S'il y a une chose qu'on mérite cet été, c'est d'avoir du fun. Ça tombe bien. Nous aussi, on aime ça, le fun. Le retour de Boulevard.
Boulevard 102.1.
16h24, 88-971-1021, 88-971-1021, s'il se passe quoi que ce soit sur la route, vous êtes nos yeux, nos oreilles, je vois que sur Laurentienne, la direction sud, ou pour ceux qui s'en vont directement vers la capitale, eh bien, ça commence à boucher un peu. Est-ce qu'il y a un accident dans le secteur, 88-971-1021?
Pas dans ce secteur-là précisément, mais j'en ai deux à vous mentionner. Donc, Félix Leclerc, direction ouest, hauteur de la 1ère avenue, la voie de gauche qui est bloquée en raison d'un accident sur Félix Leclerc est. Fin d'accès depuis l'autoroute Laurentienne en direction nord, la voie de droite qui est partiellement entravée en raison d'une panne. Sinon, dans les gros ralentissements, vous mentionnez Capitale Ouest, ralentissement à partir entre Bourg-Royal, là, je vous dirais, et aussi Seigneurial jusqu'à la hauteur de Laurentienne. Capitale Est, un bon ralentissement entre Henri IV jusqu'à Laurentienne. Sur Robert Bourassa aussi, c'est difficile en direction nord, à partir de Charest jusqu'à la capitale. Entrée du pont Pierre-Laporte via Duplessis et Henri IV est très difficile. Henri IV, ça commence à partir du chemin Sainte-Foy, ce ralentissement-là. Et sinon, sur la 20 en direction ouest, hauteur de la route du président Kennedy jusqu'à Taniata. C'est au rouge. J'avais des informations autres que ce que je viens de dire. 88-971-1021.
Qu'en est-il du pneu là, qui était éclaté dans voie droite sur la 20 ouest à hauteur de Taniata? Parce que c'est même pas une voiture. C'était pas une voiture que son pneu était éclaté. C'était vraiment un pneu sur.
Qui avait déjà pris.
Ouais.
Exactement.
Dans le milieu de la route, on n'a pas plus d'infos.
On n'a pas plus d'infos à part notre auditeur qui nous a tenu au courant. Donc, j'imagine qu'il doit être encore là. Sinon, faites-nous signe.
Dans les dernières heures, on a parlé de tireurs embusqués, on a parlé de snipers, on a parlé de forces spéciales. Donc, on s'est trouvé, nous autres, un prétexte. En fait, je me suis trouvé un prétexte pour parler à mon chum Wally, qui serait considéré comme étant le meilleur tireur d'élite au monde. Je vais juste essayer de m'assurer qu'il soit là. Wally, est-ce que tu nous entends?
Yes sir, je vous entends, merci de l'invitation.
Bon. Les Russes te cherchaient partout, fut un temps où tu étais dans le secteur de l'Ukraine et les Russes voulaient t'anéantir. Là, t'es chez toi. Avec du recul, là, tu y retournerais-tu?
Oui, dans certaines conditions.
À certaines conditions. Ouais, c'est vrai que la dernière fois que tu y étais, les conditions n'étaient pas nécessairement favorables là, pour un gars qui fait ton métier.
Non, ben... En effet, il y a un paquet de. Il y a des améliorations qui sont faites en Ukraine, là, avec, je vous dirais, avec l'intégration des étrangers, mais il y a encore beaucoup de lacunes. Il y en avait énormément dans, là, je vous dirais, les 6 mois après, puis l'année qui a suivi. Ça m'a amené à un moment donné à dire aux Ukrainiens, écoutez, là, vous n'êtes pas sérieux quand que vous dites que vous voulez des étrangers, vous voulez des professionnels. Vous avez une bande d'aventuriers que la moitié est alcoolique, la moitié. Ils se promènent d'Airbnb à un Airbnb qui prennent un paquet de drogue, un paquet d'alcool, mais vous ne voulez pas des professionnels. Si vous voulez des professionnels, par contre, il va falloir que vous changez vos pratiques. Il y a des pratiques qui ont changé, en effet, mais il y a aussi beaucoup de lacunes. Là, puis mais heureusement, il y a des choses qui s'améliorent. Il y a des choses qui s'améliorent, mais c'est pas encore assez, c'est pas encore à mon goût.
Avec les images que tu as vues de l'attentat sur Donald Trump, est-ce que ça t'a surpris de la rapidité d'exécution du sniper qui était pour le Secret Service? Parce que c'est presque 3-4 millisecondes, en fait, entre Thomas Crook qui ouvre le feu sur Donald Trump puis le moment où il se fait abattre. Je veux dire, ces gars-là sont surentraînés, en fait?
Oui, bon, il y a tellement d'affaires qu'on pourrait dire là-dessus. C'est sûr qu'il y a beaucoup de zones d'ombre, il y a beaucoup de peut-être. Le problème, c'est qu'on voit beaucoup d'opinions qui se disent, des affirmations. Tu sais, il y a beaucoup on dirait que tout le monde cherche un coupable, etc. Je voudrais apporter quelques nuances. Donc, la première, c'est que selon moi, les tireurs d'élite ont bien fait leur travail. Là, ce qu'il faut dire, c'est que je ne suis pas un spécialiste de ce genre de travail-là, ce qu'on appelle la security detail, ce qu'on appelle. Là. J'ai des connaissances, je connais des gens qui travaillent là-dedans, mais je ne suis moi-même pas spécialiste de ça, malgré que j'ai une expérience pertinente, c'est sûr. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que selon moi, les tireurs d'élite ont bien fait leur travail. Parce que selon les informations qu'on a, les tireurs d'élite n'avaient pas l'autorisation de tirer. Donc, ils pouvaient rapporter l'information, mais ils ne pouvaient pas directement décider par eux-mêmes s'ils abattaient une cible ou pas. Donc, probablement que c'était le protocole. Est-ce que le protocole, évidemment, le protocole peut changer. Dans l'armée, mettons qu'on est en Afghanistan, en Irak ou dans toutes sortes de pays, selon avec laquelle armée qu'on travaille, il y a ce qu'on appelle des règles d'engagement. Donc, règles d'engagement, c'est une espèce de séquence, mais ça a vraiment une force de loi. Donc, si tu vas contre ces procédures-là, tu es carrément dans l'illégalité. Là. Donc, Par exemple, prenons l'exemple qu'un tireur d'élite, quelqu'un de la garde rapprochée, n'a pas l'autorisation de décider par lui-même s'il veut utiliser de la force mortelle et il l'utilise et il fait erreur, ben, cette personne-là peut être tenue coupable parce que cette personne-là n'a pas suivi les procédures. Donc, selon ce qu'on sait, c'est que les tireurs d'élite n'avaient pas l'autorisation d'abattre la cible. Peut-être que, là, on va le voir avec l'enquête, mais peut-être que le protocole faisait en sorte que les tireurs d'élite devaient demander permission et la personne devait formellement identifier la menace comme étant une menace immédiate. Là, après ça, il y a sûrement eu de la confusion. De ce qu'on en sait, il y avait de la confusion. Il commençait à avoir une espèce de rumeur dans la foule qui se répandait. On peut s'imaginer les ondes radio où ça devait être le chaos. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était dans un poste qui ne devait pas être, qui n'avait pas les compétences? Il y a tellement de choses. Donc, première des choses, les tireurs d'élite ont fait, de ce que j'en sais, leur travail. Si on voit les images, d'ailleurs, là, on voit qu'ils n'étaient pas surpris par le tireur. Donc, on voit qu'ils étaient prêts. On voit que quand les tirs ont commencé, moi, mon interprétation, c'est que les tireurs d'élite ont dit, OK, là, j'ai le droit d'engager ou je me donne le droit, je ne sais pas si le protocole le permettait, mais là, c'était tellement évident que c'était une menace, clair, là, parce que les tirs étaient vraiment, ils commençaient. Donc, là, ils ont pris la décision d'abattre la cible, mais ils étaient prêts.
Donc, Wally, ton hypothèse à toi, c'est que le tireur d'élite regardait déjà le tireur Thomas Crook, mais il n'avait pas la permission d'ouvrir le feu parce qu'on ne savait pas qui il était, cet individu-là, puis si c'était quelqu'un qui était hostile à Donald Trump ou envers la foule.
Il y a tellement de choses. Là, souvent, on entend les critiques. Ah, ben là, les tireurs d'élite, c'était quand même proche. Moi-même, j'ai déjà battu une cible à cette distance-là. Donc, c'est vraiment facile de toucher une cible à cette distance-là, ça, c'est certain. Donc, les tireurs d'élite, peut-être qu'on pense qu'ils voyaient bien, mais peut-être que, tu sais, on voit qu'il y a comme, sur les images, il y a comme une espèce d'entretoit. Donc, c'est pas un toit plat. Donc, c'est très possible que malgré une courte distance, le tireur, on voyait peut-être son épaule, sa tête bouger, on voyait ce qui semblait d'être une arme, mais peut-être que l'angle ne permettait pas de formellement identifier ça comme 100% de menace. Les tireurs d'élite ont rapporté l'information. On voit un suspect qui semble avoir une arme, etc. Blablabla, blablabla. L'information circule. Ils n'ont pas l'autorisation de tirer. La personne, peut-être, de ce qu'on en sait, la personne se faisait coincer. Donc, le tireur était comme dans une position précaire parce qu'il y avait des patrouilleurs proches. Il s'est peut-être mis en position en 2 secondes. Il a commencé à tirer à peu près parce que la cible, le podium où se trouvait Trump, c'était quand même facile à acquérir comme cible. C'est quand même au centre. Donc, peut-être qu'il a tenté sa chance. Ça a duré 2 secondes. Il a commencé à tirer extrêmement rapidement. Les tireurs d'élite ont vu ça. Les tirs ont commencé. Ils ne savaient même pas si c'était eux autres même qui étaient à la cible. C'est pour ça qu'on les voit un peu bouger, ce qu'on appelle le finishing dans l'armée. Ils ont fait feu. Donc, il y a peut-être ça qui s'est passé. Il y a beaucoup de peut-être, mais selon moi, les tireurs d'élite ont fait leur travail.
Wally, ton record, toi, pour ce qui est de l'atteinte d'une cible, parce que tu es un tireur d'élite, c'est quoi ton record?
Je ne suis pas si loin que ça, là. Moi, j'étais spotter presque tout le temps. Moi, j'ai le plus loin que j'ai touché, mais c'est vraiment une belle cible, là. C'est 830 mètres, mais c'était une cible qui bougeait. Donc, c'était vraiment une belle prise, là. Mais je n'ai pas tiré si loin que ça. Là. Il y en a des qui ont tiré plus loin que ça.
OK,
encore.
Mais 830 mètres, je veux dire, toi, tu es un professionnel, tu as fait ça en fait, c'est ta carrière professionnelle. Quelqu'un qui peut tirer une tête à 135 mètres, est-ce que ça prend beaucoup d'entraînement?
Non. Et pas tant que ça. Non, vraiment pas. Il y a bien des idées. Enfin, encore là, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Je ne veux pas donner trop de détails techniques pour ne pas donner des idées à tout le monde.
Mais, c'est parce un bon réflexe.
Le public a le droit de savoir certaines choses, mais il y a d'autres choses qu'il ne faut pas toutes dire. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la première fois qu'on tire vers une cible humaine, c'est extrêmement énervant et stressant. Ça paraît de rien, mais on peut s'imaginer le stress extrême d'avoir un ex-président comme Trump dans sa mire, d'avoir aucune expérience concrète qui ressemble à ça. On peut s'imaginer le haut niveau de stress. Puis ça, je l'ai vu dans toutes les guerres dans lesquelles j'ai participé. Les soldats deviennent extrêmement imprécis dans leur tir. Même des snipers. Donc, ça prend souvent plusieurs patrouilles, ça prend plusieurs engagements où on est habitué plus à cette sensation-là, étrange. Là, ça ressemble beaucoup à aller à la chasse puis d'abattre une cible. Donc, il y a une espèce d'adrénaline, une nervosité. Dans ce cas-ci, la nervosité est encore plus grande parce qu'il n'était pas conditionné, on ne l'avait pas entraîné à être conditionné. Il n'y avait, de ce qu'on en sait, pas d'expérience qui se rapprochait de ça. Donc, il n'avait pas été déployé, il n'avait pas été dans une zone de guerre comme militaire ou peu importe. Donc, il devait être extrêmement stressé, donc on amène une plus grande imprécision dans ce cas-là. Il était un peu coincé par les patrouilles de ce qu'on en sait, donc il devait être encore plus nerveux. Il savait qu'il allait y passer probablement, etc., etc., sans compter tous les détails techniques, mauvais choix d'armes, mauvais choix de munitions, ajustement de l'arme, ce qu'on appelle le zérotage. J'ai été dans une zone de guerre où un paquet de soldats avaient des armes mal ajustées. Donc, ils voulaient faire une compétition de tir avec moi. Moi, je leur dis, écoute, si tu ne me laisses pas ajuster l'arme, moi, je veux dire, c'est pas parce que je suis pas bon, là, c'est parce que tu ne me laisses pas ajuster l'outil. Mais tu sais, il y a des gens qui comprennent pas ça. Tu sais, puis, est-ce qu'il y avait les compétences pour bien ajuster son arme, ce tireur-là? Probablement que non, ou peut-être qu'ils avaient partiellement, mais il n'a pas fait un travail optimal. Il y a beaucoup de peut-être comme ça. Où j'aimerais revenir aussi, c'est là où tout le monde cherche des coupables. Là, on se dit, OK, les responsables, c'est peut-être eux qui sont coupables, les responsables immédiats, mais encore là, est-ce que le responsable avait les ressources? Peut-être que ça faisait 10 fois que le responsable disait, écoutez, moi, je n'ai pas les ressources pour établir la sécurité sur un périmètre assez grand. Donc, je suis obligé d'employer la police municipale qui ne sont pas formés au niveau tactique. Ces policiers-là n'ont pas les mêmes ces compétences-là. Donc, moi, ça fait 10 fois que je vous le dis, je ne suis pas capable, je n'ai pas le personnel. Donc, soit vous m'envoyez du personnel, soit vous changez les procédures, etc. Encore là, est-ce que ça a été fait, pas fait, on ne sait pas. Est-ce qu'après ça, en haut, il y a des gens qui ont décidé de ne pas donner ces ressources-là alors qu'ils étaient requises? Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas alloué les budgets alors que ces budgets-là, pour avoir plus de ressources, étaient nécessaires? Il y a pas beaucoup de peut-être comme ça. Donc, il faut faire très attention avant de dire « Ah, c'est la faute d'un tel parce que j'ai vu une photo puis j'ai entendu un message sur Facebook qui disait ça. »
Mais c'est sûr, Wally, qu'il y a des têtes qui vont tomber. Je veux dire, pour le pape, je me souviens qu'on mettait des écrans par balle, des écrans transparents par balle qui faisaient en sorte que quand il s'adressait à la foule, s'il y avait des gens qui étaient derrière la foule puis qui tiraient, la balle aurait été stoppée par l'écran qui était transparent. Là, visiblement, ça ne semble pas s'être fait. L'arme que tu utilises en tant que sniper, toi, ou que tu as utilisée dans ta carrière versus le AR-15, es-tu capable de nous faire la différence entre ton arme à toi versus le AR-15?
Bien, on a utilisé l'équivalent d'un AR-15 pour la défense rapprochée. C'est un fusil d'assaut. En fait, d'un point de vue technique, pour les puristes, c'est plus une carabine qu'un fusil d'assaut. Là. Mais tu sais, c'est une arme qui n'est pas... J'ai déjà vu ce que ça fait sur un humain, là, ces balles-là. C'est pas... C'est correct, là, c'est bon, mais tu sais, une arme comme ça, une AR-15 là, qui tire du 223 Remington ou l'équivalent 556 NATO, parce que c'est la même chose, un en millimètre, l'autre en pouce, c'est une 22. Okay? C'est pour ça, 0.223, tu sais, si on regarde les deux premières lettres, c'est un 22. Fait que cette carabine-là, c'est une espèce de grosse 22. Là, attention, c'est pas une longue 22, long rifle, c'est comme une espèce de 22 boostée avec une bonne charge de poudre. Donc, si je mets une cartouche de 223 Remington d'AR-15, si c'était le calibre que tu utilisais, avec un 22 long rifle, on va voir que c'est complètement différent, mais le calibre est semblable. Là où je veux en venir, c'est que il faut se rappeler que c'est pas une arme extrêmement puissante. C'est une carabine, c'est un fusil d'assaut qui est fait pour jouer un rôle d'infanterie d'assaut. Est-ce que ça peut toucher une cible Est-ce que Donald Trump serait mort s'il avait été touché à la tête? Absolument. C'était amplement suffisant, moins de 200 mètres. Sauf que c'est pas une arme optimale. Il y a d'autres armes qui sont plus optimales pour ce genre de tir-là. Là, je ne veux pas dire lesquelles, je ne veux pas dire quelles munitions, etc., ou comment s'entraîner ou comment ajuster, je ne veux pas rentrer là-dedans. Okay. Mais il y avait, de ce qu'on en sait, des lacunes à ce niveau-là là, pour le tireur.
Okay. Mais avec ton expérience, Wally, là, ce que tu nous dis dans le fond, c'est que le jeune homme de 20 ans qui était sous pression, qui était caché, qui ne voulait pas se faire prendre, qui devait se dépêcher pour faire son tir. Pratiquement un miracle qui a réussi à toucher à Donald Trump avec sur son oreille.
Oui, pour vrai, c'est pas si pire que ça. Il ne faut jamais sous-estimer, t'sais, quand on fait une analyse de risque, je travaille en cybersécurité d'ailleurs, puis quand on fait des analyses de risque, là, on regarde tout le temps ce qu'on appelle le high risk, high impact, donc un haut niveau de risque, un haut niveau d'impact. Un faible risque, mais un haut niveau d'impact, etc. Tu sais, on classifie. Souvent, les loups solitaires, les personnes qui font des initiatives, le problème, c'est que c'est dur savoir d'avance parce qu'ils n'ont pas un réseau. Tandis que s'il y a un complot bien organisé avec beaucoup de gens, souvent que les communications, des fuites, des erreurs commises par le groupe, c'est plus facile savoir d'avance qu'il va y avoir au moins quelque chose qui va se passer sans nécessairement tout le temps connaître le détail. En cybersécurité, c'est un peu pareil. Mais quand il y a quelqu'un d'individuel qui fait une initiative, un loup solitaire, le problème, c'est que c'est dur à savoir. Okay? L'avantage, par contre, c'est que la personne souvent est mal préparée, n'a pas de support, n'a pas de ressources. Quand je dis ressources, c'est ressources matérielles, des ressources en termes d'argent, entraînement, etc. Donc, c'est pour ça que les théories du complot font absolument aucun sens dans ce cas-ci, parce que si la personne était extrêmement bien entraînée, là, on pourrait avoir des doutes qu'il y avait quelqu'un derrière, une organisation, peu importe, ça peut être une petite, une moyenne, une grande, qu'il y avait quelque chose à faire là-dedans. Là, ça ne semble pas être le cas. Parce que si tu ficelles un complot aussi bien, mais qu'à la fin, ton tireur est tout croche, puis c'est quelqu'un qui est à peine capable d'aller jouer au paintball d'un point de vue compétence. Par contre, il ne faut pas sous-estimer les guts que certaines personnes ont. Ce gars-là avait des guts, qu'on soit contre. T'sais, évidemment, on est contre qu'est-ce qu'il a fait, mais je veux dire, il y a eu des guts de quand même aller là, d'aller quelque part que c'était à peu près, il y avait des grosses chances qu'il se fasse pogner. Il a fait feu, il l'a quand même fait. Fait que dans un sens, il y avait des guts. Il ne faut pas sous-estimer cet aspect-là. C'est la même chose en cybersécurité. Il y a des gens qui vont faire des affaires. Des fois, on se dit, comment ça que le gars, il a pu rentrer dans un serveur de façon aussi ridiculement facile? Parce qu'il se fout des règles du jeu. C'est pas un professionnel, c'est quelqu'un qui va essayer n'importe quoi, puis le n'importe quoi va parfois tomber dans une petite faille que tout le monde a assumé qu'elle allait être correcte. Mais c'est la même chose.
Wally, j'ai une question pour toi, parce que je suis quand même surprise du fait que vous n'avez pas vraiment d'autonomie quant à vos choix en tant que peut-être sniper dans ce cas-ci. Si jamais vous faites partie d'un groupe de sécurité, vous devez protéger la foule ou encore un politicien ou peu importe, qu'il faut toujours demander. Puis en même temps, peut-être que ma question est stupide, d'avoir à toujours demander à un commandant, ça n'empêche pas justement d'avoir une force d'impact qui est rapide?
Ouais. Oui, bon, il y a tellement de nuances à porter. Bon, premièrement, des fois, il y a un contexte, OK? Le contexte, exemple, s'il y a de l'information comme quoi il y a une menace, le niveau d'alerte va être différent, les protocoles, les procédures utilisées vont être différentes. Encore là, si c'est plus au niveau, là, je vais dire complot entre guillemets, c'est-à-dire un groupe qui planifie un attentat, un assassinat, souvent, ça va plus de chances d'avoir un leak. Donc, on va savoir qu'il y a quelque chose qui se trame sans savoir les détails. Donc, on va mettre les gens sous niveau d'alerte. Les procédures vont changer, etc. Tout le monde va être sur le qui-vive, etc. Mais en effet, il y a des lacunes. Là. Je suis pas en train de dire que tout est beau, puis c'est juste que tout s'est bien passé, puis dans le fond, c'est juste la malchance. D'après moi, il y a eu des lacunes. Le périmètre voudrait savoir pourquoi, aussi près que ça, il n'a pas été... Exemple, est-ce qu'il y aurait dû avoir des procédures, ce qu'on appelle des coups de semonce? Des coups de semonce, je ne sais même plus combien j'en ai fait dans ma carrière, c'est-à-dire tirer à côté de quelqu'un de suspect, puis dire, puis d'envoyer un message que si tu t'en vas pas, la prochaine balle, ça va être un tir mortel. Donc, est-ce que là, peut-être qu'il doit y avoir une procédure qui dirait, écoute, vous pouvez utiliser des coups de semonce, mais vous n'avez pas nécessairement le droit d'utiliser. Parce qu'il faut comprendre que si on donne l'autorisation à tirer les cibles là, qui sont suspectes, là, je vous dis, ça va être le free-for-all. Là. Attention, là, parce que là, imaginez, là on donne l'autorité là, mortelle ou policier. OK, tout ce qui est suspect, là, dans un rallye avec des milliers de personnes, là, vous pouvez abattre ces cibles-là si vous trouvez que c'est suspect.
Il y a un couteau à double tranchant. Ben oui.
Parce que Wally, ce que tu nous expliques, c'est que Thomas Crook aurait pu être un jeune homme de 20 ans qui voulait prendre une belle photo de Donald Trump couché au-dessus du garage. Puis si jamais un sniper avait perçu quelque chose comme étant un danger puis qu'il avait tiré, ce sniper aurait
pu... C'est ça, là, on donne l'autorisation. Okay, tout ce qui est suspect... Vous pouvez abattre ça. Là, tu vois un gars qui est avec un cell phone ou une manette de drone, parce qu'il peut avoir des menaces avec des drones aussi. Donc, est-ce que si vous avez quelqu'un qui a un drone, là, est-ce que vous avez une manette de drone qui veut contrôler un drone, est-ce que vous avez le droit d'abattre ça sans poser, puis après ça, vous avez tout est correct, tout le monde est content? Ouais. Vous imaginez un peu le scandale. Vous avez quelqu'un qui veut, que personne n'y a dit que c'était pas correct, ou bien c'était juste un curieux avec son drone, il se met allé sur le top d'un building, il passe ça, puis il se fait tirer dessus par tout le monde. Je ne sais pas si qu'est-ce qu'on dirait. Est-ce qu'on dirait tout est correct, puis dans le fond, ben, c'est à lui de ne pas être là, ou on dirait non, il faut des réformes. Vous voyez que les responsables de la sécurité comme ça sont tout le temps dans un jeu où on leur demande d'être parfait, de faire face à n'importe quelle situation. Fait que c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Puis souvent, quand on critique de l'extérieur, ben, j'aimerais bien ça voir. C'est correct de le critiquer puis d'amener des nuances. Ça, c'est pas ça que je ne dis pas de rien dire, c'est pas ça. Mais je vous dis de le dire, il faut le dire avec une certaine humilité. Parce que quand on est sur place dans des situations à haut risque, où on est extrêmement, tout le monde nous a à l'œil, les choses sont différentes. Okay? Mais c'est correct, il faut absolument qu'on améliore les choses. C'est inacceptable ce qui s'est passé. Et on aurait pu utiliser des drones, il y a des procédures qui sont à changer. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait leur travail, etc., etc. Là. Mais bref, il faut être humble un peu dans nos critiques parce que les choses sont peut-être plus compliquées qu'on le pense.
Ouais. Wally, en tant que sniper, c'est une question de Martin là, sur mon messenger. En tant que sniper, tu as été assez médiatisé là, quand tu es parti en Ukraine. Les Russes te cherchaient partout parce que tu étais devenu comme un trophée de chasse. Est-ce que tu dois encore prendre des moyens de sécurité pour justement qu'il ne t'arrive à rien à toi?
Oui, il y a des choses, évidemment. Mais tu sais, là, je ne veux pas entrer dans les détails de la sécurité, là, mais c'est sûr, évidemment.
Mais
t'es tout? T'as...
Ah, voilà. C'est dit.
Est-ce ben, que... s'il veut s'essayer, il va savoir.
Non, mais t'es-tu tout le temps sur le qui-vive? T'es-tu toujours en état vigilant?
Personnellement, oui, là. Il y a d'autres choses que je ne dirais pas. Mais oui, c'est sûr. Ça, c'est une affaire qui est plate un peu, là. Parce que quand tu arrives de déploiement, normalement, t'es comme, tu sors, c'est comme sortir. T'sais, tu sors, tu t'en vas en Afghanistan, tu reviens, les chances qu'il y ait un taliban qui vient de planter une bombe en dessous de ton char sont faibles. Tu t'entends? Mm. Le problème, c'est quand tu fais des choses comme j'ai fait, c'est que là, c'est comme il n'y a plus de... Tu sors jamais. Tu es tout le temps dedans. C'est fatigant. Il y a d'autres choses que je ne peux pas dire, mais ça devient fatigant à une heure. Parce que faut tout le temps que tu sois comme stand-by. Puis ça draine un peu, mais bon, tu t'habitues. Moi, je suis un gars fataliste. Moi, il y a des mesures qui sont prises. Puis, à un moment donné, si, malgré les mesures, mon heure est venue, mais mon heure est venue.
Ouais, parce que nous autres, on a eu.
Je peux pas tout faire.
Ouais. Ouais. Tu te souviens qu'on en a parlé, je pense, parce que c'était par Messenger, toi et moi, mais nous autres, on a eu peur pour toi. Pendant des jours et des jours, on n'était pas capable de te rejoindre. Je pense que même ta propre conjointe n'était pas capable de te rejoindre. Ouais. D'après moi, si tu veux repartir un moment donné, tu vas avoir une grosse discussion avec elle.
Oh, ben, je vous laisse imaginer à quoi ça ressemble des discussions de ce genre-là. Puis, probablement que votre imagination n'est pas loin de la réalité.
Ouais.
Là, je suis en train de. Je suis en train de faire le documentaire là-dessus, ça va bien, puis je suis en train aussi de faire finir mon livre là-dessus aussi, ça va super bien, puis il y a bien des affaires que j'ai jamais racontées, que je veux raconter, mais c'est, en
tout cas, c'est spécial. Aussitôt que c'est prêt, tu me fais signe, parce que les auditeurs de Boulevard t'aiment beaucoup.
Moi, je me demande s'il y a des gens qui te croient pas.
Ouais.
C'est tellement, c'est sûrement surréel.
Moi, je suis content quand les gens me croient pas, j'aime ça.
Mais moi, pour vrai, je pas que je te crois pas, là. Mais à chaque fois que j'entends parler de toi, puis à chaque fois que je te parle, je suis comme « Et que c'est spécial! Et que c'est surréel! »
Ben ça. Moi, quand j'entends des gens qui ça arrive pas souvent, je vais t'avouer. Ça arrive quand même, là, régulièrement, mais c'est pas la majorité. Mais moi, j'aime ça quand quelqu'un me croit pas parce que je me dis « Hey, ça veut dire que c'était pas pire ce que j'ai fait. » Hein? Je me dis ça. Puis là, je vais dire la même affaire que je dis tout le temps. Si quelqu'un pense que je mens, j'encourage. On va faire une enquête. On va mettre de l'argent sur la table. Puis on va aller sur place. J'ai même, moi, je me rappelle, en fait, une petite anecdote. Tu sais, comment il s'appelle le journaliste Budingo?
Ah, Bougingo, François
Bougingo.
Lui, il s'est fait poigner à inventer des histoires. Mais là, comment s'appelait donc Isabelle Haché, c'est ça. Elle est allée, je pense, à Lviv en Ukraine. Puis j'avais été mis en contact avec elle. Puis là, j'ai fait une joke. J'ai dit, viens-t'en checker, je vais voir si c'est un Budingo. Viens me suivre. Finalement, elle n'a pas pris l'invitation. Je ne sais pas pourquoi, mais tous les journalistes, ça brassait. Là, ouais. Personne n'avait le droit
mais
de sortir.
Mais tu ris,
au début,
mais c'est là. À ça que je pensais. Je me dis, mais c'est un François Bougingo. Tu sais, Wally, ouais. Je veux dire.
Moi, j'invite à n'importe qui à se lever et dire de vérifier. Regarde, j'ai les noms, j'ai les lieux.
Mais tu comprends que tu es un simple Québécois.
J'ai les détails de toutes les choses que j'ai faites. Si quelqu'un m'en doute, là, pour vrai, là, moi, je suis open à prendre le challenge.
Mais c'est fascinant parce que tu es un simple Québécois. Il n'y en a pas d'autres comme toi. Sinon, on les connaît pas ou ils ont été assassinés.
Oh, oui, attention. Dans mon livre, là, ce que j'écris d'ailleurs, je dis, là, c'est quoi la différence entre un bon soldat et un héros? Le héros, il s'est écrit des livres. Dans le sens que mon histoire, c'est juste parce que je suis un bon communicateur, je suis capable d'écrire des livres, mais je capoterie des gars que je connais, qu'est-ce qu'ils font en Ukraine, etc. en ce moment, c'est débile mental. OK, puis mais ils n'ont pas ce talent-là que j'ai de pouvoir communiquer. Donc, l'important, quand on est quelqu'un comme moi qui est un peu un bon communicateur ou un écrivain ou peu importe, c'est de rester avec un... Oui, on peut être fier, mais la fierté ne doit pas se transformer en arrogance puis en disant hey, « moi, je suis le meilleur, puis d'attitude, puis les autres, ils ne valent rien. » Non, oui, je suis bon. Ça ne sert à rien de dire que je ne suis pas bon. Là. Ça, c'est de la fausse humilité. OK? Est-ce que je suis le meilleur? Pas pantoute. Est-ce que je suis bon? Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres meilleurs que moi? Oui. Est-ce qu'ils ont écrit des livres? Non, mais je rappelle que ces gens-là existent. Mais en même temps, je ne veux pas dire que je suis pas bon non plus. Ça, c'est pas vrai. Ça marche pas.
Wally, on peut suivre tes histoires sur ton site Facebook, La Torche et l'Épée. Puis tu as un autre site Internet aussi.
Oui, c'est ça. Ben, Wally.io, c'est vraiment le hub d'entrée. Avec toutes mes affaires, là, je commence à tout mettre ça là les liens des livres, les projets, etc. Je mets tout ça là. Il y a plusieurs langues en plus. C'est traduit parce qu'il commence à avoir du monde un peu partout dans le monde là, qui s'intéresse là, à cette bébite-là que je suis. Que...
C'est toujours un plaisir, Wally.
Bien sûr, ça fait plaisir.
Salut, attention à toi.
Bye.
Fait bizarre à dire, hein? Attention à toi, sniper.
Il doit faire plus attention à lui que tout le monde ici à l'écoute et nous-mêmes.
Oui, ben tu sais, je veux dire, quand il est parti en Ukraine, là, les journalistes qui pensaient l'aider en disant « c'est le meilleur sniper au monde », c'est tout documenté. Ouais. Là, si vous tapez Wally Sniper sur Google, vous allez voir que les... C'est parce que les Russes le cherchaient, là.
Il est où le meilleur sniper?
Parce que c'est un beau trophée.
Contre nous, ben oui.
Tu sais, quand tu descends le meilleur sniper au monde, tu démontres un peu ta force, là. Fait que ça y a plus nuit que d'autres choses. Puis quand il est arrivé là-bas, puis j'ai fait une entrevue complète avec lui dans Mars au soir, quand il est arrivé là-bas, ce qu'on lui a confié comme mission, ce qu'on lui a confié comme arme, comme équipement, tu sais, ça lui plaisait pas, mais pas en tout. Parce qu'à un moment donné, si tu vas là, c'est parce que t'es déterminé, puis tu veux aider le peuple ukrainien, mais tu t'aperçois que les Ukrainiens, ceux qui sont au pouvoir, veulent pas nécessairement te procurer les meilleurs éléments pour que tu puisses faire ton travail. C'est ce que lui a vécu. La torche et l'épée sur Facebook, si vous voulez avoir plus de détails sur mon chum Wally. Un maudit bon gars que j'ai eu l'occasion de recevoir souvent en ondes. Puis, ben bref, jaser avec lui, vous allez voir, il est très sympathique. 16h49, on fait une courte pause. Après la pause, qui on a? Bonjour, Québec! Louis Gauthier, chroniqueur international. On vient.
Le retour de Boulevard.